Dixième lettre à sa mère. Milan, 16 juin 1850. Me voici encore plus rapproché de vous, chère mère. Quand je jette les yeux autour de moi, je crois déjà être en France. Tous les voyageurs qui ont visité Milan ont été frappés de la physionomie parisienne de cette ville. On y parle français presque autant qu'italien. Les habitudes d'ailleurs sont toutes françaises. L'Italie a déjà disparu, avec ses coutumes locales, ses monuments originaux, ses costumes pittoresques. On ne voit plus que l'habit et le chapeau rond, et les dames emmaillotées à la manière française, avec des entonnoirs sur la tête en guise de chapeau. Oh, je la regrette, je vous assure, cette belle et naïve Italie, demi-barbare encore, mais si intéressante, si originale. Je regrette, logé comme je suis dans un splendide hôtel, mes épouvantables auberges de la Romagne. Il n'y avait là ni table d'hôte, ni service d'argent, ni éclairage au gaz, mais un naïf empressement, de joyeux propos, une piquante curiosité autour de l'étranger, dont l'arrivée au village était l'événement du soir. Adieu les madones, adieu les pèlerins, adieu les voiturins, adieu les fêtes du village. J'entrevois déjà le Luxembourg, la rue d'Enfer, le palais royal. À cela près, Milan est vraiment une superbe ville, grande, peuplée, riche, avec de larges rues, des palais superbes, la ville du monde sans contredit qui rappelle le plus la physionomie de Paris. Ce soir, je remontais le cours au moment où les équipages et les promeneurs revenaient des promenades voisines de la ville. Je me suis cru un instant au boulevard de la Madeleine. La cathédrale de Milan, qu'on appelle le Dôme, est d'ailleurs un des plus superbes édifices du monde. Il est bâti tout en marbre, depuis la base jusqu'à la flèche la plus élevée. Rien ne peut donner une idée de cette gigantesque ciselure, vraie dentelle de marbre, qui compte plus de 60 clochetons et qui, dans ses innombrables niches, compte plus de 4000 statues aussi de marbre. La façade seule en contient 200 pour sa part. C'est un vrai colombier de saints. Il n'y a pas de colonnette, de saillie qui n'est le sien. Toute cette population de marbre, animant ainsi tous les coins et recoins de cet immense édifice, produit un prodigieux effet. Tout y est vivant. La vie y jaillit de toutes parts. Les formes inanimées de l'architecture semblent devenues vivantes. L'Arc de la Paix, l'Amphithéâtre, le Palais Royal sont aussi de superbes édifices dus presque tous à Napoléon, dont la trace est ici si profonde. C'est à Milan qu'il fut couronné roi d'Italie. Milan était sa seconde capitale et sa ville de choix. Monza, à quelques lieues de Milan, offre aussi beaucoup d'intérêt par ses souvenirs historiques. Là se conserve la célèbre couronne de fer des rois lombards. Nul n'avait osé la porter depuis Didier, le dernier de ses rois, jusqu'au jour où Napoléon en ceignit son large front. Mais le souvenir qui domine tous les autres à Monza, c'est celui de la grande Théodelinde, reine des Lombards. On y conserve sa couronne, sa croix, sa coupe de saphir, ses armes, et jusqu'à son peigne et son éventail, reliques un peu poudreuses qui seraient peu, je crois, du goût de nos dames. Turin m'arrêtera peu. Dans 8 jours peut-être, je serai en France. À bientôt, chère mère. Mille amitiés à tous nos amis et croyez à la tendre, à la toute filiale affection, au respect sans borne et à l'amour parfait de votre Ernest.